C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, intervenir ou pas en Ukraine, le débat polarise la classe politique américaine.
Oui, il y a quelque chose d'à l'est d'Éden, le grand roman de Steinbeck, dans les récits rapportés des États-Unis aujourd'hui. Au printemps 1916, quand il n'était alors pas encore question que le pays entre dans la Première Guerre mondiale, le climat dans l'Ouest américain paraissait déréglé. Beaucoup de gens disaient, écrit Steinbeck, que les couches supérieures de l'atmosphère étaient ébranlées par les coups de canon tirés en Europe. On en discutait sérieusement dans les journaux et entre amis. Un peu plus tard, M. Wilson serait réélu président et il avait promis de rester en dehors des affaires d'Europe. Mais on lui conseillait la fermeté, ce qui signifiait la guerre. Aujourd'hui, et alors qu'il a envoyé son secrétaire d'État Anthony Blinken à Kiev dimanche dernier, Joe Biden a jusqu'à présent tracé une ligne rouge dans ses différentes interventions. Pas d'intervention militaire directe, mais l'envoi de chars pour aider les Ukrainiens à mettre l'armée russe à genoux, ce sont les mots d'Anthony Blinken, participe à une forme d'escalade. Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI et productrice du podcast hebdomadaire New Deal sur Slate. Alors Laurence Nardon, le camp politique des interventionnistes aux États-Unis est-il progressivement en train de prendre le dessus sur celui d'idées réalistes ? Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur ces courants de pensée qui structurent la doctrine américaine ?
Oui. Effectivement, pour définir ces courants, il faut voir que depuis le moment où les États-Unis sont devenus la première puissance du monde vers la fin de la première moitié du XXe siècle, il y a eu de grands courants de réflexion aux États-Unis pour réfléchir, si vous voulez, en permanence à ce que veut dire cette puissance américaine et à ce que doit être le rôle des États-Unis dans le monde. Et donc, les gens ne sont pas tous d'accord et il y a l'émergence de courants, comme vous venez de le dire. Un courant qui a eu vraiment le vent en poupe pendant tout le XXe siècle, c'est celui des internationalistes libéraux. C'est ceux qui pensent que dans le monde, les rapports entre États sont pas des jeux à somme nulle, c'est pas l'un contre l'autre. On a quelque chose à faire tous ensemble dans le monde, sur la base des valeurs de la démocratie. C'est vraiment le message que comportaient les États-Unis, un message très optimiste et positif après 45. Il faut obéir aux droits, il faut obéir aux institutions internationales, il faut défendre la démocratie libérale partout dans le monde. Et puis face à eux, on a les réalistes qui font de la réelle politique, un peu comme Kissinger, c'est la grande figure, qui pensent au contraire que les États, tous les États dans le monde, ne font que défendre en permanence leur propre intérêt national. Et c'est pour ça que on doit pas s'occuper de morale dans le monde. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, ce débat, c'est vraiment passionnant parce que il est totalement réactualisé aux États-Unis. Et donc, pour répondre à la première partie de votre question, le courant des internationalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent défendre la démocratie, qui était déjà assez fort dans l'équipe Biden lorsqu'elle a été constituée début 2021, il est effectivement en train de prendre la main de manière, je trouve, assez claire dans la conduite de leur politique sur la question ukrainienne.
Avec quelle réponse, d'après eux, quelle est la réponse adaptée ? Avec quelles limites pour ces internationalistes libéraux ? Est-ce qu'ils voudraient aller jusqu'à intervenir directement ? Ou il faut, selon eux, répondre aux crises par la voie diplomatique, économique et multilatérale, ce qui est la solution pour l'instant privilégiée par Joe Biden ?
Oui, alors ils pensent, donc Anthony Blinken, Jake Sullivan, etc., les gens qui sont à la manœuvre autour de Biden, pensent qu'il faut absolument tout faire pour défendre l'indépendance de l'Ukraine et défendre la démocratie dans ce pays, parce que sinon c'est l'ordre international qui est remis en cause par la Russie, donc c'est vraiment absolument crucial. En même temps, c'est pas complètement des fous irresponsables, et donc ils veulent évidemment aussi, autant que faire se peut, éviter une escalade avec la Russie, puisque la Russie est un pouvoir nucléaire, comme Sergueï Lavrov le répète régulièrement. Donc jusqu'à présent, les Américains ne sont pas restés inactifs. Ils sont concentrés sur les sanctions, donc les sanctions contre les oligarques, contre les exportations de matériel technologique. Il y a la question des importations d'hydrocarbures par les Européens, évidemment. Et puis, toute la question de l'aide militaire. Donc effectivement, jusqu'à présent, l'administration Biden avait envoyé beaucoup d'aide à la fois militaire et humanitaire, en insistant sur le fait que l'aide militaire était sur du matériel défensif, pour évidemment éviter l'escalade. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'il y a un cran qui est passé. Les États-Unis commencent à dire publiquement qu'ils vont envoyer du matériel de plus en plus lourd, offensif. Alors la différence n'est pas complètement évidente, parce qu'une arme peut servir à plusieurs choses, se défendre ou attaquer. Mais enfin, on parle de chars, on parle d'obusiers, on parle de matériel qui est clairement beaucoup plus puissant pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays, leur territoire.
Pour ces internationalistes libéraux, pour ceux qui défendent aujourd'hui une intervention plus massive des États-Unis en Ukraine au nom de la défense de la démocratie, que pensent ces personnes qui représentent ce courant, comme Anthony Blinken, vous veniez de le dire, Laurence Nardon, du fait que les États-Unis, par ailleurs, n'hésitent pas, pour parvenir à ses fins et lutter contre l'autoritarisme, en l'occurrence russe d'après eux, à discuter avec l'Arabie Saoudite pour atténuer la hausse des prix du pétrole, ou avec le Venezuela, on en parlait ici, que les États-Unis maintiennent sous sanction depuis longtemps.
L'Arabie Saoudite est un vrai problème, puisque il mène une guerre qui est très critiquée par ces mêmes internationalistes américains au Yémen. Le Venezuela aussi est très critiquable pour d'autres raisons. C'est le problème depuis le début aux États-Unis, c'est qu'ils font des politiques qui sont pas totalement cohérentes sur toute la ligne, et donc ça donne lieu à des critiques. Ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est que, en tout cas, on peut le dire ouvertement aux États-Unis, il y a un vrai débat ouvert. Personne ne va en prison pour ses opinions jusqu'à présent dans ce pays.
Et les deux doctrines, internationalistes libéraux ou réalistes, se retrouvent toutes les deux, et chez les républicains et chez les démocrates ?
Oui, alors ce qui est vraiment intéressant sur le débat de politique, enfin le débat qui se mène, j'allais dire de politique intérieure, parce qu'il se mène à l'intérieur aux États-Unis, mais évidemment il porte sur la politique étrangère, la position des États-Unis dans le monde, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, ces deux courants, qui sont pas du tout monolithiques, hein, il y a autant de variantes que d'individus, j'ai envie de dire, ils se découpent pas en démocrates contre républicains, mais aujourd'hui ils se découpent vraiment entre extrémistes et radicaux, que ce soit à droite et à gauche, et un vaste bloc centriste qui est celui de ces internationalistes. Parce que pour prendre ce courant internationaliste, il est représenté donc par l'administration Biden, qui est un petit peu le courant démocrate centriste, modéré. Mais il se retrouve aussi chez les républicains, puisque il se retrouve chez ce qu'on appelle les néoconservateurs. Mmh. Les néoconservateurs comme par exemple Robert Kagan, qui sont eux aussi des interventionnistes effrénés à l'étranger pour y défendre la démocratie. Ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'en 2003, les néoconservateurs de l'administration Bush, ils voulaient aller en Irak pour y installer une démocratie libérale. Alors c'était extrêmement optimiste, ça n'a pas du tout marché, mais c'était vraiment leur opinion à l'époque. Ils se retrouvaient donc complètement dans ce courant. Et puis, pour parler des réalistes, parce qu'on n'en a pas encore parlé, ils se retrouvent aussi bien aujourd'hui, enfin sous d'autres noms, chez les Trumpistes, donc à l'extrême droite du courant républicain. C'est là que, derrière Trump, il y a encore un certain nombre de républicains pro-Poutine. Alors, ils sont pas très nombreux, mais ils sont extrêmement bruyants. Il y a par exemple Tucker Carlson, qui est ce journaliste très célèbre sur CNN. Et puis, de l'autre côté, à la gauche du Parti démocrate, il y a un courant qui est opposé aux interventions à l'étranger, un peu représenté par Bernie Sanders, mais bon, maintenant il le dit plus, mais il y a quelques mois c'était vraiment sa position. Il voulait que les États-Unis cessent d'intervenir à l'étranger de quelque manière que ce soit, enfin militairement je veux dire, pour quelque intervention militaire que ce soit, pour se concentrer sur la remise en route de la classe moyenne américaine.
Tucker Carlson, c'est ce journaliste CNN ou Fox News d'ailleurs, je crois que c'est Fox News.
Non,
je vous en prie, je vous en prie.
C'était Fox News.
C'est Fox News. Il reprend des éléments de discours russes, comme par exemple sur la dénazification de l'Ukraine ou les laboratoires d'armes chimiques. Mais il pèse vraiment quelque chose au sein du Parti républicain, ce journaliste ?
Alors, au-delà de ce journaliste, il faut parler du courant trumpiste au sein du Parti républicain. Les élites et les cadres du parti sont plutôt modérés sur la question, enfin plutôt pro-Ukraine sur la question de la guerre en ce moment. La frange trumpiste, c'est plutôt quelques excités à la marge. Mais Trump tient encore la base du parti, qui n'a pas grand-chose à faire de la guerre en Ukraine. Donc cette question de guerre en Ukraine, elle crée un clivage au sein du parti entre les trumpistes et les modérés, on va dire. Mais ce clivage, il est vraiment dans les élites, dans les cadres du parti. Il n'existe pas vraiment dans la base du parti qui se mobilise pas tellement pour ou contre l'Ukraine, mais qui est encore très trumpiste. Donc cette histoire d'Ukraine nuit à Trump au sein des élites du Parti républicain, mais pas auprès de sa base électorale.
Intervenir ou pas en Ukraine, quel est l'état du débat aux États-Unis? Eh bien, l'invité des enjeux internationaux est la chercheuse Laurence Nardon ce matin.
Laurence Nardon, pourquoi dit-on de l'Ukraine qu'elle n'est ni un allié formel des États-Unis, ni un intérêt vital américain, alors qu'on sait combien l'administration Obama à l'époque, en particulier son vice-président de l'époque Joe Biden, y a été très présent à partir de l'annexion de la Crimée en 2014? Pourquoi n'a-t-il plus, on a l'impression en tout cas qu'il n'a plus avec l'Ukraine les relations qu'il avait à l'époque?
Oui, l'Ukraine est estampillée comme n'étant pas un allié vital, enfin un élément vital, parce que elle ne fait pas partie de l'OTAN. Néanmoins, il y a quand même cette conscience extrêmement nette aux États-Unis, enfin dans les cercles autour du pouvoir, que l'Ukraine, en réalité, est un intérêt vital parce que elle est un rempart contre l'autoritarisme russe. Ce qui est très frappant quand on parle avec ces internationalistes libéraux dont on a déjà longuement parlé, c'est qu'ils voient dans la guerre en Ukraine, dans l'agression russe en Ukraine aujourd'hui, la dernière étape, une nouvelle étape dans la guerre qui se mène depuis des années entre les populistes et les libéraux au sens philosophique du terme, si vous voulez, entre les démocrates, on va dire. C'est-à-dire que il y a eu une montée des populismes depuis les années 2010 à la suite de la crise financière de 2008. Ça s'est soldé par exemple, l'élection de Trump aux États-Unis, le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne, et d'une certaine manière, la guerre en Ukraine, elle est une nouvelle étape paroxystique de cette lutte, une étape qui est transposée à l'échelon international. Et donc, si on veut défendre la démocratie, il est absolument crucial d'être très présent sur ce théâtre-là, parce que sinon, derrière, c'est la remise en cause de toutes nos valeurs occidentales, et principalement de la démocratie libérale. C'est pour ça que l'Ukraine est devenue aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important, alors que l'administration Biden était arrivée avec un certain nombre d'autres gros dossiers, notamment la Chine, qu'on n'a pas encore évoqué.
Oui, parce que pour certains, tous ceux qui plaident aujourd'hui pour que les États-Unis n'interviennent pas militairement, il y a ceux qui pensent qu'on peut toujours trouver d'autres solutions, donc on peut les appeler les pacifistes, mais il y a aussi ceux qui pensent que les Européens doivent se débrouiller seuls et que les États-Unis, de toute façon, ont d'autres priorités, comme la Chine. Peut-être un tout petit mot, Laurence Nardon, pour conclure. Quand Joe Biden évoque de façon récurrente la nécessité de maintenir un front occidental, qu'est-ce qu'il met derrière ce mot? Est-ce que les Européens en ont la même définition?
Alors, quand il parle d'un front occidental, c'est l'OTAN qui s'est trouvé totalement revigoré de manière, on va dire, miraculeuse pour les partisans de l'OTAN à l'occasion de cette guerre. Il parle aussi de l'Union européenne, pour laquelle l'administration Biden, contrairement à l'administration Trump, a beaucoup de respect. Mais là où il y a effectivement peut-être une petite différence, c'est que l'administration Biden, ou l'Amérique d'aujourd'hui, a bien conscience de la menace chinoise et la question ukrainienne ne vient pas faire disparaître la menace chinoise, alors que les Européens, peut-être à tort d'ailleurs, voient la Chine comme beaucoup plus lointaine, un danger. Il y a une prise en compte de la menace chinoise multiforme, mais elle est peut-être pas aussi haut dans les priorités des Européens par rapport aux programmes initiaux de l'administration Biden.
Merci beaucoup Laurence Nardon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Merci.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Yos Houben.
Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Comédien, metteur en scène, pédagogue, Yos Houben reprend à la Scala son spectacle L'Art du Rire, créé il y a plus de 15 ans, et publie, avec le philosophe Christophe Schaeffer, Le Chien de Bergson, deux bonnes occasions pour faire le point